Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle « 20 000 lieues sous ma chair ». L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 000 lieues sous ma chair dans Le cœur sur la table.
Un lotissement, c'est
un rêve.
La sécurité.
Un jardin pour pouvoir recevoir ses amis.
C'est le paradis des enfants.
La terrasse, le barbecue.
La tranquillité.
L'autre bémol, c'est que la voiture est impérative.
Campagnes urbaines, un hors-série programme B, Camille Jusa, Mathias Weiss, Thomas Plé. Allée des Mésanges, rue des Primes Verts, impasse des Nénuphars, en France, nous sommes les champions du lotissement pavillonnaire. Des maisons Phénix, des maisons Sésame ou Bouygues, nichées dans des boucles, des cul-de-sac et des impasses. Un rêve bucolique, loin de la grande ville et de ses bars HLM, un petit chez-soi tranquille, que l'on regagne le soir après un trajet peut-être un peu long en voiture. À la lisière des grandes villes ou à la sortie des villages, il y a ces mêmes agrégats de maisons, cette même ligne blanche partout la même, surmontée de toits en ardoise ou en tuiles. Partout, le rêve a dessiné ce même drôle de paysage. Il a étiré les métropoles, fait gonfler les vieux bourgs, transformé nos campagnes. Plus tout à fait la ville, mais pas non plus le monde rural, on accuse souvent les lotissements de bien des maux. Étalement urbain, pauvreté architecturale, dépendance à la voiture, surconsommation d'énergie. Quand cela a-t-il démarré ? Par quel mécanisme, quel levier financier en sommes-nous arrivés là ? Quel imaginaire, quelle politique ont produit ces espaces ? À quoi rêve-t-on, ici, derrière les façades lisses et les haies bien coupées ? Que s'y invente-t-il, décennie après décennie ?
Quatre murs et un toit, pour qui, pourquoi, comment ?
Épisode 1, où on commence par fouiller les archives et on repart en arrière pour comprendre comment la maison individuelle est devenue le choix préféré des Français. Et où on commence par apprendre qu'on a surtout choisi pour eux, il y a bien longtemps, car un coron, cette cité ouvrière du Nord, c'était déjà un lotissement.
C'est une histoire qui commence au 19e siècle, et les premiers qui ont voulu loger dans des maisons individuelles une catégorie de personnes, ce sont les patrons des nouvelles industries.
Marie-Jeanne Dumont, architecte et historienne de l'architecture.
Notamment l'industrie minière, la métallurgie, les industries mécaniques. Et ces gens s'associent pour loger leurs ouvriers. Et loger leurs ouvriers, c'est vraiment crucial pour l'avenir de leurs entreprises à l'époque. Les salaires sont très faibles. On n'a pas de raison de rester au même endroit si on trouve un meilleur emploi ailleurs. Le logement va permettre de les fixer et aussi de leur permettre de fonder une famille, de se nourrir grâce à un petit jardin qu'on peut cultiver. Comme les maisons sont très petites, on va les grouper par trois ou quatre ou faire des maisons aux bandes. À Mulhouse, on a lancé une typologie qui a eu un succès national, qu'on a appelé le carré mulhousien. C'est des maisons groupées par quatre. Et on en a construit des centaines et des centaines. Des lotissements entiers de ces carrés mulhousiens ont été construits à l'époque avec un grand succès. Évidemment, ils n'ont pas la forme des lotissements du XXe siècle. C'est un urbanisme très, très rigide, fait de rues parallèles. Donc voilà, on n'a pas cherché le pittoresque. Hein. Ça, ce n'est pas du tout dans les problématiques de l'époque. On a fait du rationnel. Tout le monde, la même maison, le même jardin, dans la même rue, de la même largeur.
Ne construisez pas n'importe quoi, n'importe comment. Quels que soient vos moyens, il dépend de vous que votre famille vive heureuse entre quatre murs et un toit.
De guerre, il y a une telle crise du logement en France parce que l'exode rural s'accentue que cette fois-ci l'État est obligé d'intervenir. Dans les années 20, des gouvernements pensent qu'il faut encourager le collectif et l'individuel, et la loi Loucheur est une loi qui a mis les deux typologies, collectif et individuel, dans une même loi programme. Et l'idée était de construire 260 000 logements en 5 ans. Et ça, c'est la première fois qu'en France, on fait un effort pareil. Et donc, on a construit beaucoup, beaucoup de maisons, dites loi Loucheur. Et c'est un système assez libéral dans lequel les gens pouvaient acheter un terrain et puis construire leur maison grâce aux aides de l'État. C'est le début de la maison individuelle sur catalogue. Il y a toute une presse spécialisée qui se développe à ce moment-là. Ma maison, et ma maison, la maison pour tous, ma maison selon la loi Loucheur, mon chez-moi. À la périphérie des petits bourgs aussi bien que des grandes villes, on va avoir des maisons loi Loucheur. Alors si on prend la maison de la banlieue parisienne, ça va être beaucoup une maison en meulière avec quelques éléments en briques. On a aussi des petites variantes art déco, avec toiture terrasse et enduit en béton, des variantes régionales avec des murs en colombage ou faux colombage en ciment, des faux chalets. Voilà, partout en France, des gens peuvent faire construire dans des lotissements, puisqu'il faut trouver des parcelles pas trop coûteuses, donc pas trop grandes. Donc il y a des lotisseurs qui préparent ces lotissements et les gens font construire leur maison.
Pour aménager une petite ou une grande habitation, il faut donner à chaque pièce la dimension qui correspond le mieux à son utilisation. Le logement que vous venez de voir paraît spacieux. Il ne représente pourtant qu'une surface de 43 mètres carrés. Son équipement est simple, son prix de revient est raisonnable.
Et alors il y a eu tout un scandale dans les années 20 des mal lotis. Ce sont des gens qui ont été victimes de spéculateurs qui vendaient des parcelles, mais il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de route en macadam, hein, donc des chemins boueux, pas de trottoir, une alimentation électrique faite en aérien de façon un peu chaotique, pas d'égout. Enfin voilà, il y a eu comme ça des spéculateurs sans scrupules qui ont abusé de toute cette clientèle. Mais ensuite, ça s'est résorbé petit à petit.
Comme souvent, c'est la guerre, la seconde, qui va tout changer. Il y a des milliers d'immeubles détruits, beaucoup de taudis, et pour diriger la reconstruction et surtout bâtir les millions de logements manquants, un grand ministère est créé, qui doit imaginer les villes de demain. C'est le temps des expérimentations, présentées dans des films de quasi-propagande par le ministère, et censé faire entrevoir un avenir radieux aux Français, comme celui-ci, qui date de 1948.
Un grand peuple se refuse à l'indignité des logis sans soleil, sans hygiène, sans bien-être, à la lèpre des banlieues, à l'abjection, à la laideur, à la cruauté de nos faubourgs ouvriers. C'est pour faciliter cette tâche que fut ouvert le centre d'expérience de Noisy, véritable laboratoire de la Renaissance française.
La politique du gouvernement, c'est l'industrialisation du bâtiment, et on va la mener dans deux directions au début. Le collectif et l'individuel. Et donc, il y a quelques lotissements expérimentaux pour la maison individuelle. Et le plus connu, c'est donc dans la banlieue parisienne à Noisy-le-Sec, la cité du Merlan, et là...
On a donc rassemblé sur les 80 hectares acquis par le ministère de la Reconstruction les différents modèles de maisons étudiés spécialement pour remplacer nos millions de foyers détruits.
Comme on a peu d'expérience de maisons industrialisées en France, on fait venir de tous les pays plus avancés dans ce domaine des maisons pour voir comment on pourrait créer et développer une filière industrielle.
Voici les caractéristiques de la maison CIMA, maison préfabriquée comme toutes celles de Noisy. Entendez que ces éléments sont fabriqués en usine, puis assemblés sur le chantier. Fondation traditionnelle, ossature en béton armé, revêtement en aggloméré de fibres de bois traitées au silicate et de ciment pour l'extérieur.
Mais ce n'est pas du tout l'intérieur du logement qui intéresse le ministère à l'époque, c'est juste la technologie employée et le prix de construction. Est-ce qu'on va faire baisser les prix ? Est-ce qu'il faut développer une filière bois ou une filière du béton ou encore une filière métallique ? On hésite entre ces trois, et puis finalement, on a choisi de ne rien faire.
Car devant l'immensité des besoins de logement, les hommes de l'après-guerre font le choix du collectif. La banlieue pavillonnaire est dénoncée déjà comme le royaume du chacun pour soi et des intérêts particuliers. Archivina, 1953.
L'exode de la province a suscité la naissance d'étranges phénomènes urbains, dont le meilleur exemple est sans doute... Goussainville. Du haut de ce château d'eau, on embrasse l'étendue du désastre. Trois lotissements sans structure, se rejoignant peu à peu pour former ce conglomérat misérable et incohérent qu'il faut bien appeler une ville, s'arrêtant brusquement en plein champ au hasard des parcelles du cadastre. Et pourtant, chaque année, Goussainville s'accroît de 500 habitants. Absurde ville ouvrière sans usine, étrange cité champignon, perdue au milieu de la campagne et dont pas un habitant n'est un paysan.
Dans les premiers programmes du gouvernement des années 45, peut-être les programmes issus du Conseil national de la Résistance, il y a quand même un aspect très social dans la reconstruction du pays. Et la maison individuelle paraît ne pas être compatible avec l'idéal de cette société très organisée, très sociale. Des gens dénoncent déjà la consommation de territoire que suppose la maison individuelle. Donc déjà, quelqu'un comme Le Corbusier le dit dans les années 30, mais il n'est pas le seul, naturellement, l'habitat collectif consomme beaucoup moins de territoire. Il est clair que la maison individuelle n'est pas compatible avec une telle société.
À partir du milieu des années 50, la France édifie partout, à la lisière de toutes les villes, d'immenses cités HLM. Ce sont les Trente Glorieuses, le confort moderne, un nouvel urbanisme et un signe de progrès. Mais très vite, les critiques fusent.
Les grands ensembles, à peine sont-ils sortis de terre qu'ils ont été très décriés. Vraiment, pas tant par les habitants eux-mêmes, qui étaient contents de trouver un logement, un logement confortable en plus, avec des salles de bain, des cuisines, l'eau chaude, le chauffage central et tout ça. Mais la monumentalité, l'uniformité, le côté peut-être un peu écrasant de ces grandes barres a été très très mal supporté, non seulement par les habitants, mais surtout par les élites politiques. Et donc, la voix libérale fait à nouveau entendre ses arguments. Et le chantre d'une politique libérale dans les années 60 va être Albin Chalandon, ministre donc d'un ministère qui a changé de nom. Et Albin Chalandon, lui, dit clairement que l'État a failli, que l'urbanisme volontariste a mené à des paysages insupportables, qu'au fond, 90% du territoire français est libre et pourquoi ne pas l'utiliser ? Donc l'idée est de consommer le territoire.
Surgissant de la verdure d'un jardin du boulevard Saint-Germain, celui du ministère de l'Équipement, ces maisons individuelles, ce sont les maquettes sélectionnées par le jury.
de 3 à 5 pièces, jamais plus d'un étage, toujours un bout de pelouse ou de jardin. Groupées le long de rues qui serpentent, autour d'une place centrale, ces maisons, ces cités, correspondent-elles aux rêves de beaucoup de Français qui veulent échapper aux grands ensembles ? Le ministre de l'Équipement, M. Albin Chalandon, en est persuadé, et il affirme même que cela ne revient pas plus cher que de construire des appartements.
Lorsque l'on fait la balance du coût des équipements pour un village de maisons individuelles ou pour des immeubles collectifs, eh bien on constate qu'il n'y a pratiquement pas de différence de prix.
Les maires ont été priés de trouver leur plus beau terrain pour un grand concours de la maison individuelle lancé en 1966-67 et qui a abouti, disons, à quelques dizaines de milliers de maisons individuelles.
La maison individuelle est aujourd'hui le rêve d'une grande partie des Français. Mais il n'est pas toujours facile à réaliser pour les familles à revenus modestes. Afin de le rendre accessible, il faut libérer des terrains et débloquer un marché. C'est la politique entreprise par M. Albin Chalandon, ministre de l'Équipement et du Logement.
Donc le problème, au fond, qui n'est pas, que ne peuvent pas maîtriser ces banquiers et ces lotisseurs, c'est le terrain. Il faut des terrains pour faire ces maisons. Donc l'idée d'aller voir les maires des villes et de leur demander quels sont les terrains libres, acheter des terrains libres. Voilà, hein, il y a une espèce d'absence totale de maîtrise de l'urbanisme. Revendiqué par Albin Chalandon pour aller vite et parce que au fond, il pense que l'urbanisme, ce n'est pas important, que l'État fait des choses médiocres et que le privé fera tout cela très très bien. L'essentiel est que les gens puissent acheter leur maison et avec des emprunts sur 25 ans.
L'autre idée majeure d'Albin Chalandon, c'est de fabriquer les maisons à l'usine et si possible de se passer d'architecte. L'expérience des Chalandonnettes, c'est comme ça qu'on les a appelées, est un fiasco. Malfaçon, maison inhabitable, ruine des petits acquéreurs. Mais c'est un tournant et l'idée germe tout au long des années 70. En 73, une circulaire interdit les grands ensembles. Et en 77, la loi de Raymond Barre transfère les aides de l'État vers les personnes désireuses de se faire construire une maison. Le message est clair, l'État se désengage, voici venu le temps de la maison individuelle pour tous. Les grands groupes de BTP réorientent leur production vers ce nouveau marché florissant.
Créer l'espace. La lumière, donner la vie. Aujourd'hui comme hier, pour bâtir une maison, il faut de grands maçons. Maison Bouygues, la race des grands maçons.
Donc d'un côté, sous Mitterrand, on encourage l'habitat collectif, mais d'un autre côté, on veut décentraliser l'urbanisme, redonner du pouvoir en matière d'urbanisme aux collectivités locales et aux maires. Et bien entendu, que font les maires ? Ils vendent les terrains à des lotisseurs. Et on est reparti sur un nouveau cycle de lotissement dans toute la France à partir des années 80. Donc on est reparti sur une logique de consommation du territoire. N'est resté que le modèle sur catalogue, la maison en parpaing avec un enduit grésé et dont le plan est plus ou moins un logement de HLM posé sur une pelouse. C'est d'une pauvreté qui interpelle vraiment et consterne les architectes parce qu'il n'y a pas de recherche spatiale. On pourrait faire un habitat magnifique sous forme de maison individuelle. Eh bien, on ne le fait pas. On a une petite maison avec des petites fenêtres, d'une indigence inouïe. Et finalement, on est revenu aux matériaux industrialisé le plus basique qui est la brique et le parpaing de béton.
La question qui reste entière, c'est pourquoi, en effet, ces petites maisons un peu monopolies ? Pourquoi, que l'on soit au nord ou au sud de la Loire, cette impression qu'on a construit la même chose partout, autour des mêmes boucles, des mêmes impasses en forme de raquettes de tennis ? Est-ce juste une histoire de prix ? Dans le deuxième épisode, on part à la source, dans un village de maisons témoins, chez les constructeurs de maisons individuelles. Campagnes urbaines est un hors-série Programme B de Camille Jusa avec Mathias Weiss, réalisé par Thomas Plé. En partenariat avec le PUCA, le plan urbanisme construction architecture du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Coordination, Hélène Peskin, Jean-Baptiste Marie et Julien Moulard.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.